Dans ce journal, on va parler politique avec le débat fiscal au sein du Tabini. On ira au lycée du Diadème pour un stage dating. On passera par Motuta et bien sûr les Jeux du Pacifique en fin d'édition. Le journal, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
On reparle de la réforme fiscale pour commencer.
Et oui, une réforme qui fait débat, vous le savez, au sein même de la majorité Tavini. Mardi, la commission des finances de l'Assemblée avait infligé un réel camouflet au gouvernement, non à l'unanimité à plusieurs mesures phares du projet de budget 2024, dont la fameuse contribution sur le patrimoine immobilier. Un mauvais moment donc pour le ministre des Finances, Tevaïti Pomaré, qui a longuement rencontré hier Tony Géros pour tenter de réparer les pots cassés. Le président de l'Assemblée l'assure, les planètes vont s'aligner avec le gouvernement avant la séance plénière du 6 décembre. Mais attention, ce sera au gouvernement de s'aligner. Taraoï n'a pas l'intention de se faire marcher sur les pieds.
Je pense que hier j'ai levé le voile, hein, en disant que si jusqu'ici les locataires de Taraoï se considéraient comme étant dans une assemblée, comment on les appelle déjà ce genre d'assemblée là, d'enregistrement, une chambre d'enregistrement, aujourd'hui les choses ont changé. Parce qu'au niveau du Tavini, on ne raisonne pas comme ça, on ne fonctionne pas comme ça.
Tony Géros qui attend donc les propositions du gouvernement pour contenter sa majorité bleu-ciel. Des propositions qui devront aussi équilibrer le budget 2024 puisque les articles écartés mardi représentaient plus de 2 milliards de francs de recettes fiscales. Pas de quoi inquiéter le maire de Paea qui reconnaît des divergences dans la méthode avec l'exécutif mais qui veut tout de même avancer.
J'ai pas tapé sur la table, j'ai simplement dit au ministre que les visions sont différentes. Il faut qu'il apprenne qu'à l'Assemblée on a une vision politique et que les deux arguments qui nous anime depuis que nous sommes aux affaires du pays, c'est que le gouvernement vient nous servir en élément tangible sur la lutte contre la cherté de la vie et sur la PSG. Il y a des nouvelles briques qui sont posées pour reformater l'approche fiscale dans ce pays et puis nous nous en réjouissons. Mais ce n'est pas encore la réforme. La réforme, d'après ce que j'ai compris du ministre, elle viendra après.
Elle reviendra après et probablement fin 2024. Tony Géros au micro de Caroline Perdri qui précise que des comités de réflexion seraient aussi mis en place avec le patronat et notamment le MEDEF qui dénonce lui aussi plusieurs mesures de cette réforme fiscale. Du travail donc en perspective pour Tevaïti Pomaré avant le 6 décembre.
Politique toujours, mais du côté de Paris.
Oui, Paris qui recule sur le très polémique article 55 de la loi de finances. Un article qui prévoyait une aide à l'installation dans les Outre-mer qui aurait permis aux métropolitains d'être accompagnés par l'État pour venir installer leur entreprise, par exemple en Polynésie. Plusieurs députés avaient dénoncé la mesure, dont Ematei Le Gaïc qui sur notre antenne avait parlé d'une politique colonialiste d'expatriation. Lui et ses collègues ultramarins donc ont eu gain de cause. Gérald Darmanin a assuré que l'article serait retiré dans un premier temps, puis pourquoi pas revu pour ne bénéficier qu'aux ultramarins d'origine voulant revenir chez eux.
On parle de ces grands chantiers à Motuta.
Et oui, deux grues sont visibles sur la digue du côté des dépôts de carburant. Et c'est le groupe Sioux qui est à la manœuvre. D'abord avec ses filiales Gaz de Tahiti et SPMU qui ont commencé à préparer le terrain pour la nouvelle sphère de gaz sous talus sécurisé. Un grand réservoir qui doit remplacer d'ici 2026 la plus ancienne des sphères actuellement visibles sur la digue, celle qui n'est pas végétalisée. Les 5000 m3 de cette nouvelle structure pourraient servir si le gouvernement décidait, pourquoi pas, à une introduction du gaz dans le mix énergétique. On en a déjà parlé par le passé, mais dans un premier temps, la nouvelle sphère doit surtout permettre de faire des économies sur le transport. On écoute Georges Sioux, le PDG de Pétropole et de sa filiale Gaz de Tahiti.
Alors pourquoi cette capacité? Nos navires font 4200 m3 et la sphère fait 5000 m3 utiles. Donc quelque part, il y a une logique économique sur le transport du gaz. Un élément qu'on ne peut pas changer, c'est le cours international et le taux du dollar. Par contre, le fret, il est possible de discuter puisque un navire à pleine charge, c'est mieux qu'un navire à moitié charge.
Voilà, et ces nouvelles installations vont aussi permettre au groupe Sioux de jouer des coudes avec le groupe Moux et sa filiale Manaito qui prépare et avance sur son dépôt et terminal gazier de Itia et devrait devenir un concurrent sérieux sur le marché du gaz d'ici la fin de l'année prochaine. L'autre chantier visible à Motuhuta, il est bien plus avancé. Celui-là, c'est ce grand réservoir à carburant liquide cette fois, 14 500 m3 où devrait être rapatrié le gasoil aujourd'hui stocké par Petropole dans la zone de Faréouté, une zone que le pays, vous le savez, demande aux pétroliers de libérer depuis bien longtemps. Ce devrait donc être possible d'ici la fin 2024. Il faudra tout de même ensuite déconstruire et dépolluer. Et justement, en matière de pollution, le nouveau réservoir de Motuhuta présente des avancées inédites aux Fénois. Un voile béton entoure la structure pour la protéger des fuites et des éléments extérieurs. Et puis une géomembrane l'isole complètement du sol.
Allez Charlie, on fait un tour du côté du Diadème.
Oui, le lycée du Diadème, dont les étudiants de BTS avaient donné rendez-vous au chef d'entreprise hier. 182 étudiants face à 80 professionnels pour un stage dating qui en est à sa troisième édition. 15 minutes par entretien pour obtenir 6 à 8 semaines de stage, du gagnant-gagnant d'après les organisateurs, qui expliquent que le monde économique a tout intérêt à participer à la formation de ses étudiants pour les adapter au mieux à la réalité de leur activité. Et ça a l'air de convaincre les entreprises, écoutez.
C'est un filon qu'on adore. On adore les stagiaires du Diadème parce que le lycée est très actif et les étudiants que l'on a sont très intéressants et sont bien préparés et sont très motivés. Pour preuve, on en prend chaque année au moins un ou deux et dans l'équipe, ils sont au moins deux, voire trois, à être issus du BTS NDRC de Diadème.
Raymond Colombier de chez Viti qui a donc, vous l'avez entendu, embauché de certains de ses anciens stagiaires du Diadème. Sachez pour ceux qui n'ont pas participé à ce stage dating à l'hôtel Tahiti d'Aroué hier qu'ils peuvent toujours contacter le lycée sur son site internet s'ils recherchent eux aussi des stagiaires.
Il est 7h06, on finit par notre page sport avec une nouvelle journée de jeu au Salomon.
Une journée en or Thierry, puisque la Polynésie a engrangé trois nouveaux titres. Le premier hymne polynésien qui a retenti à Honiara hier, c'était en tennis de table masculin avec une victoire par équipe. Rappelez-vous, hier, avant-hier même, les Polynésiens avaient un peu souffert puisqu'ils avaient dû attendre 7 heures dans la chaleur d'un gymnase avant d'apprendre que leur épreuve serait reportée pour cause de panne d'électricité. Eh bien ça n'a pas empêché Océan Belle-Rose, Kenji Otan, Hugo Gendron et Bidir Carnet d'arriver frais hier et de monter une à une les marches du tournoi jusqu'à la finale contre la Calédonie. L'esprit d'équipe a fait le reste. Victoire, 3 matchs à 1.
On est une team vraiment très très soudée. Donc le soir, on a discuté, on a parlé et on avait toujours le même objectif. En fait, le lendemain, de se mettre à fond dedans tout de suite et de leur rentrer dedans.
Hugo Gendron, tahitien qui joue en ce moment à Bordeaux et qui forcément a le sourire, ça n'est pas le seul. Le coach Alizé Belle-Rose, le grand frère du capitaine Océan Belle-Rose, est d'autant plus heureux que la victoire en ping-pong, c'est presque une tradition polynésienne.
On gagne en 2011 avec mon équipe, 2015 aussi avec mon équipe, 2019 avec l'équipe d'Océan. Enfin, Océan, il a mené en tant que capitaine et on gagne encore en 2023 chez les hommes. Ça commence à faire un paquet de temps. On espère que ça continuera. En tout cas, on va se donner à fond pour.
Ça continuera aussi, pourquoi pas, pour l'équipe féminine de ping qui a elle aussi croqué à l'or hier. Là aussi, il y a des histoires de famille avec Kele et Keala Teahetua qui menaient cette équipe aux côtés de Aimoe Wong et Takihei Manutei. Après une demi-finale très accrochée contre le Vanuatu, elles ont battu les très expérimentées Fidjiennes en finale. Et là encore, ça s'est joué au mental.
Ça n'a pas été facile contre les Fidjiens parce qu'elles ont déjà été là. Nous, c'est le premier jeu du Pacifique, très stressé. On a progressé pendant nos matchs. Ça n'a pas été facile. Elles étaient plus fortes que nous, j'avoue. Elles ont de l'expérience par rapport à nous. Mais je pense que tout s'est joué sur le mental. On a été plus fortes et... On l'a voulu cette médaille. C'était vraiment exceptionnel parce qu'on était tous réunis, on était tous ensemble à se soutenir et franchement je ne peux pas demander Dieu mieux comme team.
Voilà le bel esprit d'équipe de Kelei Teahetua pardon, au micro bien sûr de notre envoyé spécial au Salomon, Valdemar de Lage. Autre équipe, autre médaille en argent cette fois pour le ping-pong handisport. Le tennis des tables ça n'est pas fini puisque aujourd'hui il y a du simple et du double. La délégation tahitienne veut être claire, elle vise toutes les médailles d'or.
Et lui aussi on a eu une de médaille d'or.
Et lui c'est Naël Roux, dont vous avez entendu plusieurs fois le nom ces derniers jours, puisque le jeune nageur de 17 ans, très polyvalent, enchaîne les podiums, quelles que soient les distances et la nage. Il s'agit toutefois de son premier titre de ces Jeux obtenu en 1500 mètres nage libre. Une récompense très attendue pour ce jeune homme qui se lève tous les jours à 4h du matin pour s'entraîner. On l'écoute.
Je voulais l'or et je l'ai eu. Je pense que ça récompense le travail, les sacrifices, etc. Et ça fait du bien de voir que le travail y paye un jour. J'attendais beaucoup ce 1500 parce que au fond de moi, je savais que j'allais faire une bonne course et ça fait du bien.
Et ça nous fait du bien aussi cette victoire Naël. Et puis ça fait du bien à son entraîneur au pôle performance de la fédération, Anis Billy, qui voit en Naël Roux un potentiel qualifié olympique. Écoutez.
Voilà, je ne vais pas lui mettre la pression ou quoi que ce soit, c'est qu'il a toute l'artillerie pour. Et c'est un garçon très sensible. Donc cette sensibilité, on la retrouve que chez des athlètes hors normes. Donc il y a des hauts, il y a des bas, mais bon, ça fait partie de son apprentissage. Donc.
Et l'apprentissage aussi pour Enzo Kernivinen, médaillé de bronze toujours en 1500 mètres. A noter aussi la nuit dernière cette belle médaille d'argent récoltée en karaté par Kenley Cavani, la seule représentante du Fénois dans la discipline et qui combat de nouveau aujourd'hui en open. Médaille aussi mais en bronze pour Steven Teira en haltérophilie. On attend dans les heures à venir les demi-finales de volley avec les Tanné et les Vainé tahitiennes qualifiées, le foot avec Tahiti Marianne du Nord et puis le basket féminin. On vous tient bien sûr au courant de tous les résultats sur Adjoint et Thierry FM. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 7h30. Ce sera pour la revue de presse.
Merci Charlie, à tout à l'heure.